Revue de presse de l'april, semaine 36, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Alors, quel est le sommaire, mon cher Manu ?
Cet article, comme d'habitude. Donc, on va vous parler de ventes liées, de chiffrage informatique, transhumanisme, A2P, les hackers et la démocratie, la neutralité du net. Et pour terminer, petite nouvelle intéressante sur le code source de Skype.
ZDNet, ventes liées, retour au Sénat d'amendements dans le projet de loi consommation, un article de la rédaction.
Donc, on parle d'institutions, de ventes liées, de lois, mais il me semble que c'est un gros truc, tout un bousin où il y a tout un assemblage de choses. Et au milieu, un truc qui nous intéresse, la vente liée.
Dans le projet de loi de consommation, on a vu apparaître récemment trois amendements qui ont été proposés par divers groupes parlementaires.
Oui, écolo et communiste.
Et donc en fait, qui demanderaient à afficher enfin les prix, le détail des prix de ce qu'on achète dans le commerce quand on achète une machine. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qu'on a. Il y a un prix. Et ce qui correspond à la machine, au système d'exploitation qui est installé dessus ou au logiciel, on ne sait pas. Donc si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne peut pas demander son remboursement.
Il y a plusieurs choses qui ont été proposées, notamment le fait de pouvoir choisir des logiciels. Donc le constructeur préinstalle plusieurs logiciels et qu'on puisse sélectionner et valider tel ou tel logiciel et payer le truc correspondant.
Oui, en l'activant avec une clé qui t'est fournie à l'achat, si tu achètes ou si tu n'achètes pas.
C'est le genre de dispositif qui existe chez les professionnels, donc les constructeurs savent parfaitement faire ça. Alors ce qui est intéressant dans cet article, c'est que sur cette loi projet de consommation, ça avance. Et ça recule parce que c'est des trucs à peu près équivalents avaient déjà été proposés dans la loi et sortis à plusieurs reprises, donc soit sur des votes au niveau du Sénat, soit par intervention du gouvernement qui avait mis la pression parce qu'ils n'en veulent pas. Cette question de la vente liée, ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est un des quatre dangers identifiés par l'April sur le logiciel libre, qui fait qu'on n'a pas le choix et qu'on ne connaît finalement que ça, parce qu'il n'y a que ça dans les magasins. Il y a des lois qui encadrent ça, régulièrement il y a des politiques ou des élus, etc., qui disent oui, on va faire quelque chose contre, et oui, en fait rien ne bouge jamais.
Voilà, au final, il faut aller au tribunal personnellement, avec votre ordinateur sous le coude, ne pas hésiter à le renvoyer au constructeur, demander des remboursements du système d'exploitation. On sait que globalement, on peut récupérer 100 euros sur un voilà, Windows quelconque.
Des heures et des heures d'ennui pour récupérer 100 euros, c'est vraiment...
Parfois, on te fait même payer pour l'enlever, voilà. Ce qui est quand même un peu moche.
Oui, on bloque la machine, on va la bloquer pendant un mois, le temps de faire l'aller-retour avec le constructeur.
Enfin, c'est, voilà, donc tout est fait pour que les militants se lancent dans ce truc vraiment, vraiment pénible. Alors, on verra si ça va tenir, mais vu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la loi, ça ressemble pas mal à des guerres de position. Et je ne serais pas étonné que ça se fasse dégager tout de suite derrière.
Un petit lobby qui va passer par là et qui a vite demandé le retrait.
Le gouvernement a déjà viré des trucs, donc bon, voilà.
Oui, ça fait partie de ces grands sujets qui reviendront probablement. On n'a pas trop d'optimisme, Béa. On espère juste. On va voir.
Les Échos, Prism Bull Run, la réputation du cryptage informatique entachée. Un article de Geoffrey Marin-Joris.
Alors, Prism, moi je sais ce que c'est, mais Bull Run, je ne sais pas trop.
Bull Run, c'est une nouvel acronyme que Snowden a mis en place publique. En fait, c'est un système qui serait créé par la NSA, qui permettrait de tout stocker, de tout déchiffrer, tout ce qui est chiffré aujourd'hui, donc SSL, les mails ou d'autres choses. La NSA aurait accès absolument à tout, ou en tout cas se donnerait les moyens de tout déchiffrer.
Donc ils auraient un service spécialisé en décryptage avec un budget annuel de 190 millions d'euros.
Ou milliards, à mon avis.
190 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Enfin, je suppose que c'est en dollars et que ça a été converti. En tout cas, l'article, c'est ce qu'il annonce. Donc, on imagine, hein. Donc, ça fait quand même une grosse, grosse fortune juste pour cette question de casser les codes. Oui. Et donc, ce que Snowden dit, c'est qu'il y a effectivement plein de technologies de cryptage qui sont pas fiables. En tout cas, qui sont cassées par la NSA. Et certaines tiennent encore. Bon, l'article dit pas lesquels, mais bon, ça montre l'ampleur des moyens qui sont mis derrière.
Oui, c'est moche. Il est question que même un protocole comme HTTPS, vous savez, quand vous allez sur votre banque, eh bien, la NSA, mais on a confiance, hein, c'est des institutions américaines, ce sont nos grands alliés, la NSA pourrait, moyennant quelques heures passées à le déchiffrer sur des ordinateurs construits à façon par IBM, donc des trucs vraiment spécifiques pour eux, eh bien, ils pourraient déchiffrer votre connexion à la banque, vos envois sécurisés, soi-disant sécurisés. S'ils vous ciblent, en tout cas, vous êtes vraiment pas trop protégé, on est finalement protégé que par notre anonymat. C'est moche qu'on pense que, voilà, les institutions françaises vont peut-être faire des passages d'appels d'offres sur des marchés un peu importants, eh bien, les États-Unis, on sait, ils n'hésitent pas, hein, ils cassent ça, ils regardent qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et ils en tirent des avantages qui ne sont pas anodins.
Après, en plus, les problèmes qui sont soulevés par Snowden, c'est que la NSA joue un peu, on va dire, au malhonnête, en essayant de soudoyer les entreprises qui font des logiciels ou des systèmes de
cryptographie. Ou en leur mettant carrément une contrainte.
Ou en leur mettant une contrainte légale, en leur disant que vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Et donc mettre des portes dérobées ou d'autres choses de ce type-là, voire même en participant aux spécifications des systèmes de cryptage pour essayer de mettre des trous dedans ou autre pour se donner des moyens de plus facile de déchiffrer tout ça après coup.
Alors, un truc que je retiens dans la conclusion qui est assez intéressant et qui rejoint ce qu'avait dit François Pellegrini pendant l'émission qu'on avait fait pendant les Remeleux avec Gilles, c'est qu'il y a cette question de la sécurité du logiciel, mais qu'il y a la question de la sécurité du matériel, et que si on peut tout à fait avoir des backdoors, donc des portes dérobées pour espionner dans du matériel, et que si on ne contrôle pas aussi son matériel, cette sécurité, elle peut être aussi illusoire. CNET France, transhumanisme, un futur entre nos mains, un article de Fabien Soyez.
Le meilleur article depuis des semaines et des semaines, ça m'a fait plaisir.
On vient juste de reprendre la presse.
Ah non, il est génial.
Il est vraiment pas mal.
Alors, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est, Manu? Parce que tout le monde ne connaît pas.
Eh bien, c'est la transformation de l'humanité dans le futur, hein, bien sûr, en utilisant la technologie, les sciences et notre désir de changer et d'évoluer.
Donc, se faire muter par la biologie, être un cyborg, tous ces machins-là, quoi.
Par exemple, devenir immortel, par exemple, combattre les maladies, choisir les caractéristiques de vos enfants ou éviter qu'ils aient des déficiences que vous allez choisir à l'avance. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses possibles et beaucoup de choses qui font peur.
Voilà, donc là, l'auteur, en fait, prend deux possibilités de notre futur. Donc, comme il l'appelle lui-même, le futur heureux et le futur un peu moins heureux. Donc, il y a le premier futur où, justement, on va profiter de ces technologies pour devenir immortel, pour être heureux, pour améliorer la condition humaine. Et à l'inverse, on peut tomber dans par exemple avec l'eugénisme qui revient à sélectionner les gènes uniquement des enfants qu'on veut avoir ou qu'on réserve ces technologies aux plus riches. Et donc on pourrait avoir en fait un homme qui peut être totalement heureux avec ces technologies comme un monde complètement ravagé par ce genre de.
Moi, ce que je retiens, et c'est vrai que par rapport à ça, c'est le sujet moi qui je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement avec cette idée du transhumanisme, on retient souvent plus de performance, mais le fond du problème, il n'est pas là. Il est qu'est-ce qu'on en fait? Et l'article dit très bien, on peut être plus intelligent, plus fort, etc., et continuer à faire n'importe quoi. Et c'est cette question du régime des émotions qu'on peut tout à fait les travailler. Tu citais ça, l'article dit on pourrait être juste heureux tout le temps. Ça se trouve, ça marcherait pas du tout. Mais enfin bref, l'article est vachement intéressant pour ça. Alors évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais ça pose des tas de questions.
La conclusion qui dit voilà, si on a aussi des choix sur le fait qu'on puisse s'accaparer ces mécanismes, ces changements, les choisir nous-mêmes, les décider, les façonner, le do it yourself, l'open source.
Voilà, c'est le lien. C'est pour ça que c'est dans la revue de presse.
Au contraire, on est bloqué. C'est les entreprises qui nous prennent en main, c'est les États qui choisissent pour nous. On passe dans un monde où tout est terrifiant, où on perd le contrôle, et c'est là. Dessus que voilà, on a effectivement le point avec notre vue de presse, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est on se prend en main et on choisit notre avenir. Venez faire du libre avec nous et venez construire tout ça.
PC Impact, Adopi, la peine de 15 jours de suspension à Internet ne sera pas appliquée. Un article de Marc Reiss.
Donc c'est la mort d'Adopi, mais il y a encore des soubresauts.
Voilà, donc le seul condamné Adopi a été presque gracié, on va dire, puisque la coupure de sa ligne Internet ne sera pas effective.
Bon, sans doute, ça vient du fait que la loi a changé, et donc rétroactivement, du coup, on n'applique plus ce truc-là. Et puis il disait qu'en plus de ça, en fait, il y a plein de choses trappes dans la loi. Hein. D'ailleurs, on n'y est pas pour rien non plus. Et qu'en fait, c'est pas vraiment Internet qu'on coupe. Quand on regarde les mots, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, c'est l'accès au web. Et donc, du coup, techniquement, c'est juste infaisable. Donc, même s'ils avaient voulu appliquer la loi, c'était techniquement.
Et en plus, c'était limité à 15 jours, si je me trompe pas.
Oui,
donc c'était pas forcément un truc de ouf. On peut dire bon débarras à la Adopi et voilà encore
en
une fois.
On a fait cette prédiction que ce serait une usine à gaz et que ça marcherait pas, et on avait raison. L'humanité.fr, la démocratie liquide des hackers, un article de Mehdi Fikri, qui est une interview d'une journaliste spécialisée sur les hackers qui s'appelle Amaëlle Guidon.
Donc c'est autour d'un livre qui s'appelle Hackers, au cœur de la résistance numérique, et ça prend un peu tous les thèmes qu'on a à cœur chez nous, notamment le libre, mais beaucoup plus.
Voilà, donc elle fait le tour de tout ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas de tout ce qui se cache derrière le terme hacker, qui est un terme qui n'est pas forcément bien compris aujourd'hui. Donc c'est les groupes comme Anonymous ou Telecomix qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas de représentativité officielle.
Et aussi le logiciel libre aussi.
Avec du logiciel libre. Et donc elle fait le point sur toute cette communauté donc, qui essaye d'imposer, en tout cas de façonner la société selon de nouvelles pratiques. Donc par exemple en n'ayant pas de côté politique ou en tout cas en essayant de changer la politique existante.
Ou au contraire, en ayant un côté politique assez novateur. Enfin, l'article est bien parce qu'il fait effectivement tour d'horizon, donc si vous connaissez pas du tout ces mouvements-là, bah, allez voir ça, peut-être que ça vous donnera envie d'aller lire le bouquin.
Mais si vous lisez, bah, vous revenez vers nous, on a besoin d'une critique de quelqu'un qui va analyser tout ça.
Numérama, neutralité du net, Nelly Creus, Fiche du Monde, un article de Guillaume Champeau qui, là aussi, qui est une interview de Philippe Stréguet. Donc Félix, qui est un membre de la Quadrature du Net.
Un bon petit gars, alors.
Même un fondateur.
Un des fondateurs, mais c'est considérable.
Voilà, donc pour rappel, donc il y a la Commission européenne qui doit travailler sur tout ce qui touche à la neutralité du net. Et donc là, Nelly Creus a sorti...
Mais c'est qui cette Nelly Creus ?
Donc Nelly Creus, c'est la vice-présidente du groupe parlementaire qui est chargée du travail autour de la neutralité du net. Et donc là, elle a lancé une espèce de bombe qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc elle serait pour la neutralité du net, mais en ayant une espèce de discrimination positive... que les fournisseurs d'accès auraient le droit de privilégier tel ou tel contenu.
Oui, de ce que j'en ai compris, en gros, c'est que les fournisseurs d'accès ne pourraient pas ralentir certains utilisateurs, mais simplement augmenter la vitesse des autres. Donc, voilà quoi.
Enfin, ça revient à peu près au même au final, voilà. Puisque si on accélère plein de monde, il y en a d'autres qui vont être ralentis.
Ouais, il y a comme une hésitation, on pourrait dire.
Voilà. Alors, ça fait des années qu'on entend parler de cette Nelly Creus qui a affirmé que la neutralité du net c'était super important, blablabla, et qui régulièrement, en gros, met des gros coups de canif dans le principe. Et qui joue un double jeu. La Quadrature, on a parlé souvent, ça les a pas mal énervés. Et là, ils disent qu'il est temps d'agir, c'est ça.
Voilà. Et donc c'est pour ça, faut contacter les députés, aller présenter les idées de neutralité du net à nos députés européens pour contrer un peu ces textes-là et enfin la faire vraiment appliquer et vraiment exprimer clairement ce que c'est.
C'est là qu'elle est clairement mise en danger. Voilà. Et là, ils en appellent à ACTA en disant qu'on est sur quelque chose d'un peu équivalent, enfin en tout cas d'une gravité aussi importante que pouvait l'être ACTA. Donc allez voir le site de la Quadrature, renseignez-vous et passez quelques coups de fil, envoyez des mails à vos députés, faites du bruit. PC Impact, le procès de la diffusion des sources de Skype s'ouvre en France, un article de Marc Ress.
Ah, on parle de Skype, mais Skype c'est du propriétaire, privateur, Microsoft en plus.
Racheté par Microsoft, ouais. Effectivement. Et il s'avère que deux personnes qui étaient en cheville dans une entreprise française, bon, qui depuis se sont séparées, avaient un projet consistant à faire une... sorte de plateforme qui permet de faire des communications sécurisées au travers de Skype. Et en gros, la tête technique pensante du truc avait démonté le principe Skype, trouvé les algorithmes qui étaient derrière. Et donc, il y a plein d'histoires. Là, ça a l'air assez compliqué. Et voilà, les foudres leur sont tombées dessus.
Ça a l'air très compliqué, très intelligent. Je crois bien que c'est un mathématicien assez reconnu dans son domaine. Il avait été repris par des Russes. Et c'était il doit y avoir 2 ans, on avait pu s'exclamer, voilà, les protocoles de Skype ont été cassés. On va pouvoir utiliser Skype avec d'autres logiciels que Skype, logiciel privateur s'il en est. Ouais. Mais là, pour le coup, ils ont cassé les protocoles, mais ils s'en prennent plein la tête.
Ils se sont pris un peu Microsoft sur le coin de la tronche, parce que Microsoft, bon, avec des arguments qui, juridiquement, je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air assez bizarre. En fait, ils les attaquent pas vraiment pour avoir piraté ou en tout cas cassé le code de Skype, mais plutôt pour tout ce qui en a découlé, c'est qu'une fois que Skype a été, enfin le protocole a été rendu public, il y a certaines personnes qui ont l'air de s'être amusées un peu avec tout ça, et aujourd'hui, Microsoft les attaque pour insertion dans un système informatique, piratage,
vol de droits d'auteur, oui, ils n'hésitent pas.
Donc c'est un peu, ça va être un peu compliqué,
voilà,
je pense.
Donc du coup, ce procès est intéressant parce qu'il pose la question de quelle est la valeur juridique d'un algorithme. Et après ça, on a aussi l'impression que cette démarche et voilà, ce paquet super lourd là qui est au-dessus de la tête de cette boîte, c'est aussi pour calmer tout le monde. Ils disent que leur projet ne s'est jamais fait parce qu'évidemment, aucun investisseur n'a voulu mettre des sous dans un truc avec Microsoft qui est tout colère. Et c'est de la pure politique de FUD. Fear, Uncertainty and Doubt, là on est vraiment dans le fear, on va vous faire peur, en gros on va leur péter la gueule, donc personne veut y aller, et on sait pas si effectivement ils vont se retrouver en prison et qu'ils risquent gros, ou si c'est juste de l'intimidation pure et dure, pour que surtout personne n'aille mettre ses petits pieds dans cet univers.
Ouais, ça fait beaucoup penser au brevet logiciel, où on brevette une idée, on vous bloque, on vous empêche de la rechercher, de la retrouver par ailleurs, c'est un peu de ce domaine-là, mais eux, ils hésitent pas à dire que c'est du vol, qu'on a piqué les codes sources, c'est idiot, c'est vraiment idiot.
C'est juste un algorithme, c'est quoi? C'est une idée, c'est de la logique, quoi.
C'est une suite d'étapes. Et donc là, on veut bloquer l'implémentation d'une suite d'étapes, mais c'est vrai que Skype, ça leur a coûté 8 milliards, il doit faire un peu la gueule.
Ça leur a coûté cher, et c'est vrai que la décision juridique risque d'être intéressante par rapport au brevet logiciel. Qu'est-ce qui est brevetable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le statut des algorithmes et autres.
Moi, je parie que ça ira nulle part.
Ça risque de faire pchit assez rapidement, je pense que quand il y a Microsoft dans la boucle, de toute façon, face à un pauvre entrepreneur français,
oui, il est mort.
On sait très bien comment ça va finir.
Très bien, et c'est la fin de cette revue de presse, merci à tous.
À la semaine prochaine.
Et au revoir tout le monde.
À la semaine prochaine.